Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 5, chapitre 10. Le maître d'école et Claudine Levée, novembre et décembre 1532. Fromont part pour Genève, d'abord mal reçu. Il veut quitter Genève. Il se fait maître d'école. Ses écriteaux, grand succès. Fromont enseigne. Différence entre Rome et la Réforme. Les enchantés. Le faux laton. Paul entraîne Claudine vers l'enchanteur. Claudine se signe puis écoute. Elle s'enferme 3 jours et 3 nuits. Sa conscience trouve la paix. Entrevue de Claudine et de Fromont. Farel, voyant ses travaux couronnés dans ses diverses localités, d'un triomphe que tout annonçait devoir être définitif, portait ses regards avec d'autant plus d'ardeur sur Genève. Les nombreuses victoires de Neuchâtel et de Vaud lui semblaient garantir celles qu'il remporterait dans la ville des Huguenots. Il y avait pourtant de grands obstacles. Un parti fanatique, dirigé par les moines et les prêtres, était opposé à tout changement, et même les catholiques éclairés qui voulaient l'abolition de criants abus ne cessaient de répéter que l'Église devait être premièrement maintenue et ensuite seulement améliorée. « Ce n'est pas assez d'une épuration, disait Farel. Il faut une transformation. Mais qui l'opérera ? » Il avait été banni de Genève et pour le moment, il ne pouvait y retourner. Fromont, jeune, pauvre, simple, mais intelligent, s'était refusé à entreprendre une tâche si difficile. Farel revint à la charge. Fromont ne comprenait pas que ce fût à un jeune homme de 22 ans que l'on confia l'attaque de l'un des postes les plus forts de l'ennemi. « Ne crains rien, lui dit Farel. Tu trouveras à Genève des hommes tout prêts à te recevoir et ton obscurité même te gardera. Dieu sera ton conducteur et protégera ta sainte entreprise. » Fromont se rendit, mais humilié, et voyant la tâche qui lui était confiée, il tomba à genoux. « Dieu, dit-il, je ne me fie à nulle puissance humaine, je me remets entièrement à toi. À toi je remets la cause, te priant de la conduire puisqu'elle est tienne. » Il n'était pas seul à prier. Le troupeau d'Ivonans, ému de cette vocation qui allait lui enlever son pasteur, disait « Dieu, donne-lui la grâce d'être utile pour l'avancement de ta parole. » Les frères s'embrassèrent et Fromont partit, s'en allant en Genève, dit-il lui-même, avec prière et oraison. C'était le 1er novembre 1532. Il arriva à Lausanne. De là, longeant le lac, il se dirigea vers Genève. Le pauvre jeune homme s'arrêtait quelquefois sur la route et se demandait si l'entreprise qu'il allait commencer n'était pas une folie. « Non, disait-il, je ne reculerai pas. C'est par les choses petites et débiles de ce monde que Dieu vient à confondre les grandes. » Et il se remettait en chemin. Les Genevois étaient alors fort préoccupés des signes du ciel. Une lueur étrange brillait dans le firmament. Toutes les nuits, les regards étaient fixés sur une longue traînée de lumière et les plus savants cherchaient à deviner les pronostics que l'on pouvait faire là-dessus. Au renouvellement de la lune, dit un manuscrit, apparut une comète à 2 heures du matin qui fut en vue du 26 septembre jusqu'au 14 du mois suivant. En ce temps-là, arriva à Genève Antoine Fromont. Plusieurs Huguenots, indignés de l'accueil fait à Farel, désespérés de voir Genève se réformer et ses libertés assises sur une solide base. Quelques-uns, toutefois, amateurs d'astrologie, se demandaient si cette lueur merveilleuse n'annonçait pas qu'une divine lumière allait aussi éclairer le pays. On attendait. Fromont parut. Le jeune Dauphinois fut d'abord fort embarrassé. Il cherchait à lier conversation avec l'un ou l'autre, mais on était fort bref avec l'étranger. Il espérait trouver quelques connaissances avec qui il pût se retirer sûrement, familièrement, mais il ne rencontrait que des visages inconnus. « Hélas, disait-il, je ne sais plus que faire sinon m'en retourner, car je ne trouve nulle entrée pour prêcher la parole. » Se rappelant alors les noms des principaux Huguenots, des amis de Farel, qui, selon celui-ci, devaient lui faire le meilleur accueil, Fromont résolut de s'adresser à eux et il alla heurter à la porte de Baudichon de la Maison Neuve, de Claude Bernard, de Goulas, de Vandel, d'Ami Perrin. Mais, chose étrange, il trouve partout des airs embarrassés, des figures allongées. La chétive apparence du jeune Dauphinois déconcertait même les mieux disposés. Farrel, pensait-il, aurait bien pu envoyer un docteur et non un ouvrier. Genève était une ville importante, lettrée. Il y avait dans le clergé romain des hommes de capacité. Il fallait leur opposer un ministre de bonne apparence, un docteur bien affermi. Les Huguenots y conduisaient le chétif. « Ah !» se disait Froment en retournant dans son hôtellerie. « Je les ai trouvés tant froids, tant craintifs et si effarouchés de ce qu'on a fait à Farrel et à ses compagnons qu'ils n'osent se manifester et encore moins me recevoir dans leur maison. » Confus, attristé de voir tous ses plans renversés, il s'en allait rêveur dans la rue, les yeux en terre. Il rentra dans son auberge, s'enferma dans sa petite chambre et se demanda ce qu'il devait faire. Ceux qui semblaient vouloir ouïr l'Évangile le regardent d'un œil de mépris. S'il aborde quelqu'un, on lui tourne le dos. Pas une seule porte ne s'ouvre à la parole de Dieu. Son esprit s'aigrit au-dedans de lui. Ennuyé, abattu, il plie sous le poids et perd courage. « Je suis grandement tenté de repartir, » dit-il. Froment se rendit vers le maître de l'hôtellerie, paya son compte, se chargea de son petit paquet et, sans prendre congé des Huguenots, il se dirigea vers la porte de Suisse et sortit de la ville. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il s'arrêta. Il lui semblait qu'une main invisible le retenait. Une voix s'élevait dans sa conscience et lui criait qu'il était coupable. Une force plus grande que celle de l'homme le contraignait à retourner sur ses pas. Il regagne sa chambre, s'y enferme, s'assied, pose les deux coudes sur la table et, mettant la tête dans ses deux mains, il se demande ce que Dieu veut. Il se mit à prier et il lui sembla voir se réaliser cette promesse « Je t'enseignerai le chemin dans lequel tu dois marcher ». Il se rappela ce que lui avait dit Farrel et ce que le réformateur avait fait à Aigle. Un éclair illumina son âme. On ne veut pas de lui dans Genève parce que son aspect est méprisable, eh bien, il entreprendra dans l'humilité l'œuvre que Dieu lui donne. Et puisqu'on le rejette comme évangéliste, il se fera maître d'école. Froment, dans ses courses, avait rencontré un nommé Lepatu, homme peu connu du reste. Froment lui demanda s'il pourrait lui procurer un local pour une école. Lepatu répondit qu'il y avait la grande salle de chez Boitet à la Croix d'Or, près de la place du Mollard. Ils s'y rendent ensemble. Froment en mesure de l'œil les dimensions et loue cette chambre. Il respire. Il a maintenant le pied à l'étrier. Il ne lui reste plus qu'à se mettre en selle et commencer la course. Il fallait trouver des écoliers. Avec l'aide de Dieu, Froment ne désespère de rien. De retour dans son auberge, il rédige un avis, en fait plusieurs copies de sa plus belle main, sort avec ses feuilles et les placards de lui-même dans tous les carrefours. Voici ce qu'on lisait sur ses écriteaux. « Il est venu un homme en cette ville qui veut enseigner à lire et à écrire en français dans un mois à tous ceux et celles qui voudront venir, petits et grands, hommes et femmes, même ceux qui jamais ne furent en école. Et si dans le 10 mois ils ne savent lire et écrire, ne demande rien de sa peine. Lequel ils trouveront en la grande salle de Boitet près du Mollard à l'enseigne de la Croix d'Or. Et là, on guérit beaucoup de maladies. Pour néant. Ces écriteaux ayant été plaqués par la ville, beaucoup de passants s'arrêtèrent pour les lire. Les avis étaient partagés. « Je l'ai ouï parler, » disaient quelques-uns, avec lequel il s'était entretenu. « Il dit bien. » D'autres trouvaient que la promesse d'apprendre à lire et à écrire en un mois était suspecte. À quoi des hommes plus bienveillants répliquaient qu'en tout cas ce n'était pas leur bourse qu'il en voulait. Mais les prêtres et les dévots étaient irrités. « C'est un diable !» s'écria un prêtre du milieu de la foule. « Il enchante tous ceux qui vont l'entendre. À peine l'a-t-on oui, que ces mots magiques vous ensorcellent. » Toutefois, l'école s'ouvrit et il ne manqua pas de jeunes écoliers. Froment, qui avait de l'esprit, son livre sur les actes et gestes de Genève le prouve, enseigna simplement et clairement. Avant de congédier son jeune auditoire, il ouvrit le Nouveau Testament, il en lut quelques versets et les expliqua d'une manière pleine d'intérêt. Puis, il avait quelques connaissances en médecine, il demanda à ses jeunes auditeurs s'il se trouvait un malade dans leur famille et distribua d'innocents remèdes. C'était par l'enseignement de l'esprit et la guérison du corps que l'évangéliste se frayait le chemin pour parvenir à la conversion du cœur. L'école et la médecine sont de grandes aides missionnaires. Les enfants coururent à la maison et racontèrent le tout à leurs parents. Les mères interrompaient leurs occupations pour les écouter. Les pères même, surtout les Huguenots, se faisaient tout raconter. Il y avait de ces filles et de ces garçons dont le babil ne tarissait pas. Ils abordaient même plusieurs hommes et femmes dans la ville, les invitant à venir ouïr cet homme. Bientôt, la cité fut pleine du maître d'école qui parlait si bien le français. Plusieurs adultes se décidèrent à l'entendre, ou pour s'instruire, ou par curiosité, ou par moquerie. Des femmes pourtant arrêtaient leurs maris, des plaisants lançaient leurs brocards et des prêtres leurs anathèmes. Mais rien ne put arrêter le courant, car on pensait que le maître parlerait contre la vie des prêtres, contre la messe, contre le carême. Ces bons huguenots, en traversant les rues, entendaient autour d'eux de grands murmures, moqueries et autres dictons. Ils se placèrent derrière les enfants et prêtèrent l'oreille. Froment commença. « Il dit bien, » remarquaient ses auditeurs. Il tint même plus qu'il n'avait promis. Il enseigna l'arithmétique, ce qui fut très agréable aux jeunes voix, un peu calculateurs de leur nature. Toutefois, c'était le sermon que les auditeurs attendaient. Ce fut tout autre chose que ce qu'ils avaient cru, une homélie au lieu d'une philippique. Froment, dans ses leçons, lisait tantôt une histoire de la Bible, tantôt un discours du Sauveur, donnant l'écriture comme écriture de Dieu, expliquant en passant quelques mots difficiles, puis appliquant affectueusement la doctrine à la conscience de ses auditeurs. Ils étaient tout oreilles, la tête en avant, la bouche ouverte. Chacun semblait craindre de perdre une parole. Quelques garçons jetaient un regard de triomphe à ceux qu'ils avaient amenés. Froment remarquait avec joie l'effet produit par son enseignement. Ils étaient fort étonnés, car jamais ils n'avaient ouï telle doctrine. Quelques-uns commençaient à comprendre que le christianisme évangélique ne consistait pas à se moquer des prêtres et de la messe, mais à connaître et aimer le Sauveur. Ceux qui l'entendaient concevaient en leur cœur quelque intelligence de la vérité. Les succès de cette simple instruction dépassèrent bientôt les espérances du maître, ce qu'il avait entendu raconter les beaux discours qui se faisaient à la Croix d'Or. « Venez, disait-il, car il enseigne autrement que les prêtres et il ne demande rien pour sa peine. »« Bien, disaient quelques bourgeois plus ignorants que les autres, nous irons l'entendre, nous apprendrons à lire et à écrire et nous verrons ce que c'est qu'il dit. » Hommes, femmes et enfants accouraient dans la salle. C'était à qui serait le premier. Le pauvre homme que les jeunes voix avaient repoussé avait tout à coup grandi à leurs yeux. Les discussions entre huguenots et mamelouks, les prétentions du duc de Savoie et de l'évêque de la Baume furent oubliées. Il ne fut plus question que de l'évangéliste. À l'époque de la Réformation, rien ne frappait plus que la grande différence qui se trouvait entre l'instruction donnée par les prêtres et celle des réformateurs. « Leur enseignement, disait-on, n'est pas chose tant froide, tant maigre et tant morte comme celle de la papauté. Messieurs nos maîtres entonnent il est vrai assez haut et proclament tout ce qui plaît à leur chaperon, mais ils gazouillent les choses divines d'une manière profane. Leurs propos n'ont aucune révérence de Dieu et l'on n'y voit que braverie et affectation. Dans ceci, au contraire, au lieu de paroles écaquées, il y a vertu et efficace, un esprit vivifiant et une puissance divine. » Les amis des prêtres ne pouvaient entendre des discours semblables sans concevoir les plus vives alarmes. « Bah, bah, disait-il, vous parlez comme si cet homme vous avait enchanté. Par quel son, par quelle figure, par quelles opérations magiques vous a-t-il ensorcelé? Ou bien est-ce peut-être par de belles paroles, de belles promesses ou d'autres moyens de séduction, des espèces sonnantes? Dès lors, quand on voyait passer dans la rue une femme qui suivait les assemblées de la Croix d'Or, « C'est une enchantée, disait-on tout haut. » Et si un homme survenait, « Oh, oh, l'enchanté, écoute !» lui criait-on. On faisait des plaintes, des reproches amers, on entendait des signes d'improbation. Mais malgré tout ce mouvement contraire, le nombre des auditeurs croissait de jour en jour. Plusieurs même de ceux que la curiosité avait amenés étaient intéressés, éclairés, émus, et s'en retournant, ils louaient et glorifiaient Dieu. Tous n'étaient pourtant pas gagnés à l'Évangile. Certains chefs huguenots, Ami Perrin, Jean Goulaz, Étienne Dada et d'autres encore ne prenaient pas grand goût au sermon du prédicant, mais ils croyaient que cette nouvelle doctrine qui tombait du ciel renverserait la domination des prêtres et des mamelouks. Aussi n'hésitèrent-ils pas à se ranger parmi les auditeurs de Froment et à l'appuyer énergiquement dans la ville. Bientôt, ce fut bien pis encore. Quelques auditeurs de Froment invitèrent certains prêtres un peu libéraux à venir entendre le maître d'école. La pensée de s'asseoir sur les bancs de la Croix d'Or, effrayant ces ecclésiastiques, les huguenots leur répétèrent les paroles du français. « Vraiment, dirent les prêtres, ces doctrines sont bonnes et on ferait bien de les recevoir. »« Oh, disaient certains bourgeois, les clercs qui faisaient tant les braves sont maintenant eux-mêmes convertis. L'alarme s'accrut. Les moines et les prêtres les plus bigots entraient dans les maisons, s'adressaient aux groupes formés sur la place publique et se moquaient de la doctrine de Froment et de sa personne. « Voulez-vous arrêter après ce diable » disait-il. « Que peut savoir ce petit folaton qui n'a que 22 ans ?»« Ce fou, » répondaient les amis de Froment, « vous apprendra à être sage. Ce diable chassera le diable du milieu de vous. » Il se faisait alors en effet dans Genève une œuvre étonnante. Plusieurs âmes étaient gagnées à la foi évangélique et, comme au temps des apôtres, ce furent des femmes de distinction qui crurent les premières. Paul, femme de Jean Levé, probablement la même que Pernette de Bourdigny, dont le mari s'appelait en effet Jean Levé, était fille du seigneur de Bourdigny dans le mandement de Pénée. Les membres de cette maison étaient qualifiés de nobles ou damoiseaux dès le XIIIe siècle, et plusieurs d'entre eux furent syndics à Genève. Cette dame, préparée par les enseignements des évangélistes qui avaient précédé Froment, était devenue fort fervente à la parole. Elle désirait vivement amener à l'évangile sa belle-sœur, Claudine, épouse d'un bon citoyen, Aimé Levé. Celle-ci, honnête femme, fort dévote, superstitieuse à merveille, était droite, sincère, et plus d'une fois avait combattu avec zèle les opinions de sa belle-sœur. Un jour que Paul était chez Claudine, elle la conjura de venir entendre le maître d'école. « Je n'ai une si grande horreur, répondit la belle-sœur, que, de crainte d'être enchantée, je ne veux ni le voir, ni l'ouïr. » « Il parle comme un ange, répondit Paul. « Je l'estime, moi, être du diable, repartit Claudine. « Si tu l'entends, tu seras sauvé. Et moi, je crois que je serai damné. » Ainsi luttaient ces deux femmes. Paul ne se découragea pas. « Entends-le au moins une fois, dit-elle. Puis elle ajouta avec émotion. « De grâce, une fois, pour l'amour de moi. » Elle l'obtint enfin, quoique avec grand-peine. Dame Claudine, tout en cédant aux instances de sa sœur, résolut de bien se défendre. Elle s'arma soigneusement de tous les antidotes indiqués en pareil cas. Elle fixa sur ses tempes des feuilles de romarin fraîchement cueillies. Elle frotta son sein d'une cire vierge. Elle suspendit à son cou des reliques, des croix, des chapelets et, munie de toutes ses amulettes, se rendit à la Croix d'Or avec Paul. « Je vas, disait-elle, trouver un enchanteur, tant elle était en babuinée, c'est-à-dire enjolée. » Elle se promettait alors de ramener dans le bercail la damoiselle de Bourdigny. Claudine entre dans la salle et s'assied en face du magicien par moquerie et dérision, dit le chroniqueur. Froment paraît. Il a un livre à la main. Il monte, selon sa coutume, sur une table ronde afin d'être mieux entendu. Il ouvre son Nouveau Testament, en lit quelques paroles, puis il les applique. Claudine, sans se soucier nullement de l'assemblée, et voulant afficher son catholicisme, se signe à plusieurs reprises, faisant avec la main de grandes croix sur sa poitrine, et prononce en même temps quelques prières. Froment continue son discours et déploie les trésors de l'Évangile. Claudine lève enfin les yeux étonnés de ce qu'elle entend et regarde le ministre. Elle écoute. Bientôt, il n'y a pas dans toute l'assemblée un auditeur plus attentif. La voix de Froment toute seule se fût évanouie, mais elle entre dans l'entendement de cette femme comme portée par l'Esprit de Dieu. On dirait qu'elle mange les paroles du prédicateur. Cependant, un grand combat se livre en elle. « Cette doctrine est-elle vraie ?» se disait-elle, puisque l'Église n'en parle pas. Ses regards se portaient obstinément sur le livre du maître. Ce n'était pas un missel, pas un bréviaire. Il lui semblait tout plein de vie. Froment, ayant parachevé le sermon, les enfants et les adultes se levèrent et s'apprêtèrent à sortir. Claudine resta sur place. Elle regardait le maître. Enfin, elle s'écria à haute voix « Ce que vous avez dit, est-il véritable ?»« Oui, » dit le réformateur. « Se prouve-t-il tout par l'Évangile ?»« Oui. » « Est-ce que la messe ne s'y trouve point ?»« Non. » « Et votre livre, duquel vous avez prêché, est-il un vrai Nouveau Testament ?»« Oui. » Madame Levé désirait ardemment la voir. Elle prit courage et dit « Eh bien, prêtez-le-moi. » Froment le lui donna. Claudine le plaça soigneusement sous sa mantille, au milieu de ses reliques et de ses chapelets, et sortit avec sa belle-sœur, qui commençait à voir tous ses vœux accomplis. Claudine, en se retirant, ne conversa pas beaucoup avec Paul. Elle était de ces natures profondes qui parlent peu avec les hommes et beaucoup avec Dieu. Étant rentrée dans sa maison, elle alla droit à sa chambre et s'y enferma, ne prenant avec elle que son livre et décidée à ne pas sortir, qu'elle n'eût trouvé la solution du grand problème dont sa conscience était préoccupée. De quel côté la vérité se trouve-t-elle? Est-ce à Rome? Est-ce à Wittenberg? Elle demanda et obtint qu'on ne l'attendît à aucun repas, qu'on ne vint point heurter à sa porte. Elle se sépara à part, dit Froment, pendant 3 jours et 3 nuits, sans boire ni manger, avec prière, jeûne et oraison. Le livre était ouvert sur une table devant elle. Elle y lisait constamment et, tombant à genoux, demandait que la lumière divine resplendît dans son cœur. Claudine n'avait peut-être pas une intelligence de la plus haute portée, mais elle avait une conscience délicate. Pour elle, le premier devoir était de se soumettre à Dieu, le premier besoin était de lui ressembler, le premier désir était de trouver en lui un bonheur éternel. Ce ne fut pas par l'entendement qu'elle vint à Christ, la conscience fut le chemin qui l'y amena. Une conscience qui se réveille, tel est le premier moment de la conversion et par conséquent de la réformation. Quelquefois, Claudine entendait dans son cœur une voix qui la pressait de venir à Christ, puis tout à coup, ses idées superstitieuses revenaient, et elle repoussait l'invitation du Seigneur. Mais bientôt, elle reconnaissait que les pratiques auxquelles elle avait été adonnée étaient des fontaines taries où il n'y avait jamais eu d'eau. Décidée à ne plus vaguer, elle voulait aller droit à Christ. C'est alors que redoublaient ses prières et ses oraisons dont Froment nous parle et qu'elle lisait avec avidité la parole de Dieu. Elle comprit enfin cette parole divine qui lui disait « Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Miracle, elle est sauvée. » Ce salut ne l'énorgueillit pas. Elle reconnaît que la grâce de Dieu ne dégoutte que petitement en elle, mais la moindre goutte du Saint-Esprit lui semble une fontaine qui ne tarit jamais. 3 jours s'étaient écoulés ainsi. C'était pendant le même espace de temps que Paul était demeuré à Damas en prière. Madame Levée, ayant parachevé de lire et de relire l'Évangile, désira revoir celui qui le premier lui avait fait connaître ce livre. Elle a envoyé acquérir cet homme. Froment traversa le Rhône, car Claudine demeurait au bout du pont, du côté de Saint-Gervais. Il entra. En le voyant, Claudine émue, se leva, s'approcha de lui et, hors d'état de parler, fondit en pleurs. Ses larmes, dit l'évangéliste, tombaient en terre. Elle n'avait pas d'autre langage. Madame Levée se remit pourtant, pria Froment avec douceur de s'asseoir et lui raconta comment Dieu lui avait ouvert la porte du ciel. En même temps, elle se montra décidée à professer sans crainte devant les hommes la foi qui faisait son bonheur. « Ah, disait-elle, puis-je jamais rendre assez grâce à Dieu qui m'a illuminé ?» Froment était venu pour affermir cette femme et il en était affermi lui-même. Il était en grande admiration de l'ouïr parler ainsi qu'elle parlait. Une conversion si spirituelle, si sérieuse, devait avoir une grande signification pour la réformation de Genève et, comme le dit Calvin dans une autre circonstance, où une seule femme aussi semblait avoir été convertie, de ce bien petit surgeon devait sortir une église excellente.